voulais écrire quelque chose sur le premier film, sur son élan, sur ses maladresses, sur ses indices aussi d'une œuvre en puissance. Mais au lieu d'enfiler les perles, j'ai demandé à mon joyau, qui est un journaliste qui travaille avec moi, qui s'appelle Pablo, et qui en l'occurrence est sur le point de réaliser cet été son premier long métrage. Et dans tout ce qu'il m'a raconté de sa préparation, j'ai retenu un paradoxe, ou plutôt une tension, qui a à voir avec la profession. Il m'a dit, je le cite, j'ai découvert un métier, ou plutôt une multitude de métiers qui se complètent, qui se conjuguent et qui tous ensemble fabriquent un objet, un monde professionnel. Mais en même temps, la pire chose quand on fait un film, c'est justement d'être pro, d'être trop technique, d'être trop bon, de faire trop beau, d'être dans la virtuosité, l'exercice de style, l'artificiel. Et il m'a dit cette phrase magnifique, Pablo, sur le fait qu'il savait à l'avance qu'il faudrait accepter les erreurs et les accidents, parce que de toute façon, ce serait sauvé par le charme du premier film, qui est un privilège que dans la vie, on n'a qu'une seule fois. Et que c'était justement pour ça qu'il avait choisi de tourner en pellicule, parce que la bobine, ça coûte cher. Donc on est obligé d'embrasser l'accident, et parce qu'on se retrouve avec une pellicule qui a gravé, qu'on le veuille ou non, le panache fragile de la première fois.
Boomerang à Cannes.
Là, ça commence bien, le festival de Cannes, hein, mademoiselle. Merci, je suis au bord du scandale. Là.
Augustin Trapenard, sur France Inter.
Boomerang. Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui n'en est pas à son premier film, fantasque, drôlatique, parfois plus tragique qu'elle n'en a l'air. Elle siège en haut lieu parmi les créatures célestes de Pedro Almodovar, notamment cette année, 7 ans après avoir été membre du jury pour La Palme. La voilà, présidente de la Caméra d'Or, qui récompensera dans 10 jours le meilleur premier film, toute sélection confondue du festival. Quelle joie de la recevoir ce matin. Bonjour Rossi de Palma.
Oh, merci, bonjour, bonjour Augustin et toutes les kikoutas.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je me suis demandé, qu'est-ce qui fait pour vous la beauté d'un premier film?
C'est très beau les textes de ton collaborateur Pablo. Et c'est vrai qu'il faut embrasser. Moi, de toute façon, je crois qu'on avait parlé déjà de ça quand on a eu l'occasion. Je suis une amoureuse de l'accident. Alors, je crois que l'accident toujours enrichit, l'ouvre. Mais c'est vrai que voilà, c'est une mission, presque une mission impossible, un premier film, non? Il faut avoir le courage. Et comme je dis, c'est l'histoire d'une obsession. Mmh. Il faut vraiment être très obsédé pour réussir et aussi avoir quelque chose que tu peux pas garder en toi, que tu dois véhiculer un message et raconter une histoire. Il faut vraiment avoir envie de partager une vision, quelque chose, parce que sinon, l'obsession, c'est une longue, un parcours de longue haleine, et en quelque sorte, un film, mon premier film surtout. Et peut-être ça peut prendre 4 ans, imagine. Alors il faut vraiment être dans une persistance. C'est pour ça qu'il a dit que c'est quelque chose d'héroïque.
Mais c'est finalement beau quand vous parlez d'accident, effectivement, d'erreur, de maladresse. Pourquoi c'est si beau, l'imperfection, Rossi de Palma?
Parce que je crois que ça fait partie de nous. Parce que quand on croit qu'on est en contrôle de tout, je crois qu'on gâche quelque chose. On est en interaction avec l'univers.
Alors qu'est-ce qu'il y a de plus imparfait en vous?
Mais justement, être open, ouvert à quelque chose qui soit pas sur ton contrôle. Mais c'est vrai aussi ce que disait Pablo, parce que de faire une espèce d'ouvre qui a tout dedans. Parce que c'est vrai que finalement, pas seulement un premier film, tous les films, il y a un peu une histoire de mégalomanie en quelque sorte, parce que les metteurs en scène ou la metteur en scène, c'est quoi Dieu? Elle fait un peu comme sa cuisine. Celui-là, c'est le méchant. Celui-là, la nine. À l'autre, il fait ça. À l'autre, il va tomber. L'autre, il va mourir. L'autre, après, tu mets de la musique, la photo. Il y a tous les arts, la peinture, il y a les couleurs de la photo. Il y a tous les arts compris. Et un peu, c'est croire comme un dieu que tu fais ce que tu veux avec tes personnages.
À vous entendre, c'est comme si le premier film, c'était l'essence du cinéma, Rossi. Ouais. C'est le cœur du cinéma.
Il y a parfois des metteurs en scène qui t'énervent la façon qu'ils traitent ces personnages. On va pas dire des noms. Mais une fois, moi, je suis sorti parce que d'une salle de cinéma parce que ça m'énervait. Parce que je croyais que les metteurs en scène, ils rigolaient des personnages, pas qu'ils rigolaient avec les personnages. Tu vois, c'est différent.
Alors, moi, ça m'intéresse. Quelle spectatrice est-ce que vous êtes, vous, Rossi? Est-ce que vous êtes vorace? Est-ce que vous êtes passionnée? Est-ce que vous êtes féroce?
Je suis analytique, mais en même temps, je me laisse plus porter par l'émotion. Il y a une chose que j'ai dit toujours. Un film, c'est fini dans la salle de cinéma. Et chaque spectateur le finit d'une façon différente, ouais, avec son ressenti. Alors, le film, il n'est pas fini jusqu'à ce que quelqu'un le voit dans la salle. On est d'accord. Et après, il y a autant de manières de comprendre ce film, comme autant de personnes qui regardent, parce que c'est tellement subjectif. Après, tu fais le film, tu les traduis à ta propre interprétation.
Quand est-ce que vous êtes devenue spectatrice de cinéma, vous?
Oui, moi, je me rappelle qu'il y allait avec mon père. Moi, au début, toute petite, j'aimais beaucoup les films, les 10 commandements, les Ben-Hur.
Ah ouais.
J'adorais des films comme ça, cette technicolor, et après, aussi ces histoires comme ça, un peu bibliques, imagine. Et, parce que c'était des grandes productions, voilà, les Kurosawa aussi, des grands comme ça, arrivés plus tard dans ma vie, Kurosawa bien sûr, mais des films qui c'était inouï, ce que tu voyais, que c'était énorme, que c'était huge, gigantesque.
Vous vouliez déjà être comédienne à l'époque?
Non. Non. Moi, je suis plus une interprète, comme j'ai dit, non? Bien sûr, je suis connu comme un comédien, mais je suis plutôt poète, et une poétesse, il y a tout. Il y a oui. Tous les arts dedans. Et avec un personnage, on peut faire la poésie. Mais je me sens plus, que j'ai fait les vides pour les personnages, plutôt qu'incarner un personnage, ou étudier, ou non. Je suis plus dans les démarches taoïstes.
Et c'est vrai que vous avez commencé, en l'occurrence, Rossi de Palma, par la musique, par oui. un groupe pop que vous avez créé au milieu des années 80, qui oui. s'appelait Peor Impossible.
Peor Impossible.
Quel genre de musique est-ce que c'était?
C'était de la pop.
Ah bah, faut nous raconter, il faut des rythmes, on veut des mélodies, on veut...
Ouais, c'était de la pop. On a eu une tube de l'été et tout.
C'était quoi?
On était 600 ensemble, mais on a eu... Et on a arrivé à les années, fin des années 80, alors c'est quand, je crois qu'on avait parlé déjà de ça dans notre ancienne émission, mais c'était un peu les restes, les dernières années de la Movida, alors on a eu la chance d'être là. Les années 80, c'était richissime en musique, et voilà, et alors, nous, on s'appelait Pierre Impossible parce qu'on n'avait pas trop de connaissances de la musique. Alors, on dit, comme ça, on prévient les gens qui vont venir nous voir qu'on est les pires. Après, il faut pas qu'ils réclament ou qu'ils se plaignent. On est, mais c'est vrai que c'était génial comme aventure. Et on a fait un pop très théâtral. Chaque concert, il y avait une mise en scène. Et l'âge moyen, on s'est déguisé, l'africaine, on avait tout un melting pot, on était nombreux, on était neuf.
Bah vous me connaissez, j'en ai retrouvé un titre, hein, qui s'appelle Susurrando.
Oh, je savais. Ça, c'est les tubes.
Ah, c'est vrai?
Encore les gens les chantent. On appartient à l'âge golden age de la movida madrileña, des années 80, qui était vraiment très productive et... Et encore, les gens reviennent, hein, soit dans la mode, dans les années 80, dans les années 90, ou soit dans la musique. Ça reste éternel.
Et il paraît qu'avec ce groupe, vous avez réussi à asseoir votre réputation dans le milieu culturel et artistique
On était très connus déjà. Et
vous dites que j'avais une réputation. Quelle était votre réputation?
Non, ça, je comprends pas. En réputation? Non, j'étais très mature. J'avais 20 ans. Mais comme je disais, Pedro, il s'étonnait, Pedro Almodovar, de qu'il n'y avait pas, je ne savais pas où j'allais dormir, mais il y avait un agenda.
Parce qu'il arrive à quel moment, Pedro Almodovar? C'est lui qui...
Justement, quand on est arrivé à Madrid avec mon groupe, Pedro, il était déjà à un niveau underground, il était déjà très, très, une star. Il venait de finir Tra les Ténèbres, que c'est incroyable, cette film aussi, de Les Bonnes Sœurs. C'est magnifique, les penseurs que c'était drogué et tout.
Et alors, il a réussi à vous convaincre?
Non, tout le monde l'a harcelé un peu déjà. Dans le monde underground, il était déjà un icône, on va dire. Et lui venait à nos concerts, et lui aimait beaucoup ce que nous on faisait. Et en même temps, voilà, en même temps, moi, je voulais pas les harceler parce que je voyais que tout le monde... J'ai voulu aller en casting des Matador parce qu'il préparait Matador. Et malheureusement, il y avait un concert avec mon groupe dans une autre ville de l'Espagne. Et après, il venait beaucoup, comme j'ai raconté plusieurs fois, parce qu'il y a la légende qu'il m'a découvert dans un bar. Non, moi, j'ai travaillé dans un bar un peu rockabilly, et lui venait beaucoup. Et comme ça, j'étais contente parce que tous mes amis venaient. Et comme ça, pendant que les autres se bourraient, moi, j'ai travaillé, j'avais l'argent pour me débrouiller le lendemain. Et voilà, et Pedro, c'est là qu'il venait beaucoup. Et c'est lui qui est venu vers moi, justement parce qu'il préparait la loi du désir, et il cherchait des vêtements comme ceux qu'il me faisait moi-même à l'époque pour les personnages de Carmen Maura, les transsexuels, et il dit « Ah, mais cette robe sexy que tu portes, c'est moi qui me l'a fait », parce qu'à l'époque, on se faisait tout, il n'y avait pas des robes pour les scènes ou pour la vie. Alors, et on n'avait pas d'argent, alors on était... Moi, je me faisais tout moi-même.
Sans Pedro Almodovar, aussi de Palma, vous seriez devenu, je sais pas moi, la Madonna ibérique ou qui sait, la Rosalia des années 90, en fait.
Bon, je sais pas qu'est-ce qui serait passé, parce que c'est, comment on dit, on peut pas, on est brodé ensemble.
Ouais.
On peut pas sortir un fil de l'autre.
Mais il reste
Pedro,
quoi?
Pedro, c'est un peu, mon papa s'appelle Pedro aussi. Alors, il y a les deux Pedro, les deux piliers de ma vie, professionnellement.
On
et aussi dans la famille. Parce que Pedro, c'est plus important pour mon cœur, l'accompagner, tout ça. Mais c'est vrai que, on s'est approché d'une façon qui a pas une mythomanie ou un respect. Bien sûr, pour moi, c'est un génie, tout ce que tu veux, mais il y a un côté plus familier.
Mais il reste quelque chose de la musicienne que vous êtes dans votre métier d'actrice.
Je continue à faire de la musique. J'ai un projet aussi.
Et en tant qu'actrice?
Et en tant qu'actrice, mais je me mets au service. Maintenant, je suis un peu plus, je soigne un peu plus. J'ai fait un peu tout. Et maintenant, j'essaie de faire, dans les théâtres, par exemple, j'ai rien fait que j'ai pas mis le cœur ou que j'ai pas inventé. Il y a eu toujours, dans les théâtres, toutes mes expériences théâtrales, ils sont, et dans le monde de la performance aussi. Maintenant, je suis en train de travailler, qu'on va faire en Espagne, de Brossa, que c'était un incroyable poète catalan. Et Miró, qui c'était son ami. Et on fait avec une copine artiste, on fait une performance que c'est comme si on réveille ces deux artistes. Miró et Brossa.
Vous savez qu'il y en a une dans cette émission qui réveille les artistes, si sans doute la connaissez-vous aussi, c'est évidemment la culture. Et
bien
son
sûr.
Actualité moins mollasse que tonique, que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 19 mai?
Ok.
Pas de regret. Adjugé.
Man Ray, sans fausse note, le célèbre cliché de Man Ray, le violon d'Ingres, est officiellement devenu la photographie la plus chère du monde. Après une âpre bataille de 10 minutes entre deux enchérisseurs chez Christie's à New York, l'œuvre a été adjugée pour 11,9 millions d'euros, surpassant tous les records précédents datés de 1924. Considérée comme l'une des photographies les plus emblématiques du XXe siècle, elle montre Kiki de Montparnasse, nue, de dos, en noir et blanc, avec des reins qui arborent les ouïes d'un violon, c'est tout bon.
L'idée, elle est venue un peu par hasard, un peu de manière ludique sur où est-ce qu'on peut perdre quelqu'un, dans quel contexte.
20 traces, traces. Le prix des libraires 2022 a été attribué hier à la jeune autrice Marie 20 traces pour son ébouriffant premier roman Blizzard, paru en août dernier aux éditions de l'Olivier. Récit d'une course contre la montre effrénée au cœur d'une tempête en Alaska, sur les traces d'un jeune garçon disparu. Le roman a été élu par 2000 libraires indépendants répartis partout en France. Il succède au bel héritage de Miguel Bonnefoy. Allez là! Dakar et la manière, après 4 ans d'absence, la Biennale d'art africain contemporain inaugure aujourd'hui sa 14e édition dans la capitale sénégalaise, avec pas moins de 16 expositions dans le programme officiel et 450 événements dans le off. La manifestation réunit près de 2500 artistes et transforme la ville en épicentre de la création africaine, au programme notamment le concert d'inauguration ce soir du Malien Sidiki Diabaté, une grande expo collective réunissant 59 artistes autour du mot forgé, qui se dit Ndvat Dandafa, en langue sérère parlée au Sénégal.
Cannes, troisième jour.
Et enfin, 50 nuances de grès sur la croisette. Aujourd'hui à Cannes, l'événement, c'est l'entrée en compétition officielle du réalisateur de Ad Astra, Two Lovers, où la nuit nous appartient. James Gray va enflammer la Riviera avec Armageddon Time, un portrait de l'artiste en jeune homme, plongée fascinante et graphique dans le Queens de l'enfance du cinéaste, dans la veine de Little Odessa, porté notamment par Anthony Hopkins, Jeremy Strong et Anne Hathaway. Olé. Et la comédienne Rossi de Palma, présidente du jury de la Caméra d'Or, le prix à Cannes du meilleur premier film, et Dieu sait s'il y en a des premiers films à Cannes, invitée de Boomerang ce matin. Je le disais, c'est pas la première fois que vous êtes membre d'un jury cannois. La première fois, c'était en 2015, sous la présidence des frères Cohen. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ces 10 jours?
Hallucinant que tu as dit que c'est passé déjà 7 ans.
C'est
hein.
dur, hein, ouais, on prend cher aussi. Hein.
Et moi, il y a être un des artistes de la Biennale de Dakar aussi.
Ah, c'est pas vrai?
Ouais.
Ah oui, c'est une
Après
bonne nouvelle.
Après Cannes,
il
y a aller à la Biennale de et Dakar
vous
à faire une performance.
Mais parce que vous êtes de toutes les performances et de tous les cocktails aussi. Alors, il y a 7 ans à Cannes, quel souvenir est-ce que vous avez?
Oh, beaucoup de bons souvenirs. Et beaucoup, beaucoup, c'était génial. Déjà, comme j'ai dit, les frères Cohen, il faut que j'ai dit ça en majorité aussi. Dès qu'on a eu le premier rendez-vous, il a dit, ici on vient pour célébrer ce qu'on aime. pas pour critiquer ce qu'on n'aime pas.
Ouais.
C'est une belle prémisse pour un jury et pour voilà, pour mettre en valeur tout ce qu'on aime et pas perdre le temps à critiquer ce qu'on aime.
Mais pour qu'on comprenne bien, jusqu'où est-ce que vous êtes allé aussi pour défendre un film que vous aviez aimé, jusqu'où vous pouvez aller?
Bon, dans un jury comme ça, c'est vrai qu'il faut faire des concessions, il faut que tout le monde soit d'accord et trouver voilà un film qui plaise à tout le monde.
Il faut aussi mettre le point sur la table à un moment donné quand même.
Oui, mais maintenant que je suis la présidente, j'allais mettre le point sur la table.
Bon. Ah, c'est vrai.
Mais, présidente, alors, mais quand on n'est pas présidente, on n'a pas aussi. Les présidentes, les votes, ils comptent pour deux, non?
Vous êtes comme ça, en fait. Vous êtes.
Non, mais je veux dire, avec l'autre jury, bien sûr, j'ai pas dévoilé les choses. J'ai pas dévoilé. Mais je suis très fier de beaucoup des points sur la table que j'ai mis dans cette jury et qu'après, maintenant, on voit les résultats. Mais on va pas dévoiler tous ces secrets.
Ah non, de toute façon, ça ne fait que commencer. En tout cas,
c'est
Cannes,
pas élégant.
C'est un festival que vous connaissez bien, dont vous êtes aujourd'hui une invitée régulière. Pour la jeune femme que vous étiez dans les années 80, ça représentait quoi, le festival de Cannes? Si tant est que ça représentait quelque chose.
Oui, ça fait partie depuis toujours. Mais je crois qu'il y a que les dernières années, l'année dernière que c'était un jugé, que je suis manqué au rendez-vous depuis plus de 15 ans, je crois, ou plus. Parce que même avant, je venais pour les off-Cannes, on va dire.
Ah.
Je pouvais DJ dans un hôtel. Alors, toujours, il y avait une excuse pour
être là. Pour les soirées interlopes.
Je pouvais être la marraine d'un autre hôtel qui s'est ouvert. Je pouvais, tu vois, c'est pas toujours que je suis venue comme
présidente.
Vois, comme présidente, ou comme membre du riz, ou comme, mais tu vois, j'ai gagné, mais tu vois, comme l'escalier. Tu vois, j'ai commencé de bas.
Vous avez commencé très bas, ouais. Effectivement.
J'ai bien mérité.
Vous avez commencé à l'inauguration d'un hôtel, aujourd'hui d'être présidente de la Caméra d'Or, c'est pas mal. Mais il y a toujours le frisson à Cannes.
Ouais. Non, il y a une anecdote, par exemple, quand j'ai donné le prix des jurys, l'année d'Adèle, que c'était incroyable quand Adèle,
de la vie d'Adèle.
Ouais, la vie d'Adèle. Et c'était génial parce que c'est Gilles Jacob qui m'a proposé, alors, c'est vrai qu'on a commencé une amitié via Twitter.
Avec Gilles Jacob.
Au tout début de Twitter.
Si c'est pour nous révéler des choses, on est preneurs. Vous pouvez.
Oui, mais c'est une petite anecdote. Comme ça, il y aura un match aussi à Gilles, parce que Gilles, quand même, ça fait longtemps qu'il est pas ici, mais
ancien
avec
président
nous,
du Festival
voilà,
de Cannes.
Mais ça, pour moi, ça restera toujours dans mon cœur pour ça, parce que c'était le tout début de Twitter, non? Et on savait pas qui était qui. On parlait à quelqu'un en Twitter, mais on savait pas si c'était
après,
lui ou non.
Après, quand il y a écrit Gilles Jacob aussi, c'est possible que ce soit Gilles Jacob.
Mais ouais, mais à l'époque, maintenant c'est évident. Mais à l'époque, quand ça commençait les Twitter, on savait pas si c'était quelqu'un qui se prenait pour Gilles Jacob. Non.
Mais qui prendrait comme pseudo Gilles Jacob?
Ah, écoute, mais quelqu'un qui veut, voilà.
En tout cas,
on s'est parlé et moi j'ai dit, mais vous êtes vous vraiment? Et lui m'a demandé, est-ce que vous êtes vous vraiment? C'est très mignon tout ce que ces échanges. Et alors on a dit, bon, écoutez, les jours que vous allez monter les marches, on va se faire un signe. Moi, je serai en haut et vous, dès que vous montez, on se fait un signe comme ça et on va savoir que c'est nous vraiment qu'on était en train de communiquer.
Ah.
J'ai dit, bon, on va faire ce rendez-vous. Et là, on a monté l'année avant que j'ai donné cette prix de la jury d'Adèle, justement de la vie d'Adèle. Et c'était trop drôle, monter les marches. Il va à Jacques qui dit, c'était bien moi. Et voilà, ben, c'était bien moi aussi.
Et puis, Rossi de Palma, vous êtes associé à Cannes, au réalisateur Pedro Almodovar. Tous les souvenirs de Cannes, ils vont de pair avec lui.
J'étais avec lui en les 30 rubriques. J'ai monté les marches avec lui. Julieta, bien sûr. Et encore peut-être un autre que j'oublie maintenant. Oui. Et j'espère que bientôt, un jour, il y aura la Palme d'Or.
Qu'est-ce qu'il a en plus, Pedro Almodovar, pour vous?
Écoute, par exemple, quand Pedro, il a gagné les comédiens de Volver, toutes les femmes, ils ont gagné la Palme d'Or, comme comédiennes. Même si j'étais pas dans ce film, même si j'étais pas là, j'étais chez moi à Madrid, j'ai senti que m'appartenait aussi un bout de ces, parce que c'était plus qu'à les comédiens, c'était à cette caractère des femmes que Pedro a toujours mis dans son cinéma.
C'est le seul à faire ça, à parvenir à dire le féminin avec autant de diversité.
Surtout que c'est des survivors, je veux dire, c'est des femmes positives, il n'y a pas la culpabilité judéo-chrétienne de comme ça, maintenant j'ai vécu, les traumatismes que tu peux avoir, c'est des femmes qui disent, ah, on a vécu ça, c'était traumatique, c'était douloureux, maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Allez, hop, on s'élève, on a tombé, on s'élève. Il y a toujours cette... Et cette du sens de la vie, de dire non, on va pas se faire avoir, on va pas, c'est, tu vois, il y a une force, et ça j'adore parce que c'est une injection de vitalité, et les femmes qui en chargent beaucoup, avec beaucoup de culpabilité, et inoculées depuis des générations, et c'est libératoire, toujours les personnages des femmes de Pedro, c'est des survivors, c'est des femmes fortes, mais en même temps libres.
Et la liberté par la mise en scène, voilà. Par le théâtre, par le drame, parfois, on va écouter La Lupe pour le théâtre qui enchantait les femmes au bord de la crise de nerfs de Pedro Almodovar, dont vous étiez en 1988. Vous êtes sur France Inter avec Rossi de Palma. Vous écoutez Beau Monde.
Merveilleuse chanson.
C'est merveilleux. On est à Cannes.
Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro. Acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro.
Inter, Boomerang, en direct du Festival de Cannes.
Cannes prestige, Cannes féerie, Cannes à l'heure du grand cinéma.
C'est-à-dire que c'est pas possible de la décrire, hein. Avec des mots, faudrait la peindre. C'est un tableau. Le sourire d'Oramar, l'œil constellation, l'épaule demoiselle d'Avignon, le cheveu liane et l'ongle jungle tropical. Tout en chapeau ce matin, en cheap Panama, me dit-elle.
Cheap Panama.
C'est pas exactement un Panama, c'est un cheap Panama. La comédienne Rossi de Palma, présidente du jury de la Caméra d'Or, invitée de Boomerang, pour parler de cinéma, mais aussi d'interprétation. Dans quelle mesure, en tant qu'actrice, êtes-vous particulièrement sensible au jeu des comédiens, quand vous regardez un film, vous, justement?
Moi, je vois les comédiens plus j'aime les personnages. Je crois que pour moi, les comédiens, on doit pas lire les travaux des comédiens.
Ça veut dire qu'un grand comédien, c'est un grand personnage, tout simplement.
Surtout que je veux qu'ils disparaissent un peu, les comédiens.
Alors savoir
on
bien jouer.
On veut pas voir les travaux. C'est on ne veut pas voir sa pensée, on ne veut pas lire sa pensée.
C'est s'effacer, en fait.
La pensée à lui. Mais par contre, je me rappelle d'un film de Henry Fonda, qu'il est en prison, qu'il est innocent, et qu'ils vont le chercher. Et il dit rien, il fait rien, mais dans ses yeux, tu lis toute l'angoisse. Mais on voit pas Henry Fonda, on voit le personnage qui est angoissé parce qu'il est en prison.
C'était naturel pour vous d'interpréter, d'incarner? C'était quelque chose de facile?
Pour moi, je dois avouer que c'est facile.
Ben, c'est-à-dire que...
Non, je veux dire, moi, c'est, mon travail, je suis très rationnel, très cérébral, j'aime beaucoup de choses. Mais dans la création, n'importe quelle chose que j'attaque dans la création, il y a une sorte d'inconscience et je laisse l'intuition. Et plutôt qu'avoir un ego ou qu'avoir une prétention. Je crois que les prétentions, déjà, ils élèvent la magie. Si on est, on va faire ça, on prétend quelque chose, là, tu me lèves un peu la magie. Moi, je prétends rien, je me laisse un peu dans le vide. Et surtout, oublier de soi. Si on a beaucoup d'ego, on peut pas s'oublier.
Et c'est accepter mais, l'instant aussi, tout simplement.
Il y a un peu les côtés taoïstes. Si une chose s'est remplie, on beaucoup peut pas jeter rien dedans. Mais si tu fais un vide, quelque chose va occuper. Alors, moi, j'ai fait le vide et les personnages arrivent. Comme une sorte de possession. Et c'est moi la première étonnée, parce que je suis animé pour les personnages, pas pour mon envie de faire la comédie, voilà.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe, vous qui avez commencé par la danse, qui faites beaucoup de performances, qu'est-ce qui se passe quand vous ressentez la lumière, quand vous êtes sur scène, quand vous savez que le spectacle va commencer, Rossi?
Il y a cette magnifique inconscience. Moi, comme j'ai dit toujours, les artistes, c'est pas qu'on est parce que les mots artistes, on dirait, on est génial. Non, les artistes, tout le monde est artiste en quelque sorte. Mais on est véhicule de l'art. On véhicule. On est comme là, les micros, les câbles qui nous entourent, ils véhiculent l'énergie et les sons. Nous, on est que cet câble, que cet véhicule, on peut pas se prendre pour la magie. Mais on peut véhiculer de la magie. Mais on va pas croire qu'on est magique. Ça, c'est différent.
Et on le fait aussi, de Palma, en incarnant, c'est-à-dire en donnant de sa chair, en donnant de son corps. Si on s'attache à une partie très précise de votre corps, à savoir vos mains, de quelle utilité est-ce qu'elles sont, vos mains, pour l'actrice que vous êtes aussi?
Mais c'est curieux que tu me dis ça, Augustin, parce que parfois, justement, quand on fait cette vide, qu'on se prend pas pour soi-même, et qu'on a une générosité de pas avoir la prétention d'être plus belle ou plus géniale. Sinon, on va voir qu'est-ce que les personnages, ou même les personnages, parfois même, je raconte toujours cette film magnifique de Patrice Lecomte, Une heure de tranquillité avec Christian Clavier, qui moi, je faisais la fin des ménages et qu'on a beaucoup improvisé des choses que c'était génial. Et à un moment donné, j'entre dans l'ascenseur et je mets les mains comme ça, sur ma poitrine, pas en bas, sinon une façon que j'ai jamais dans la vie, j'aurais jamais pensé à mettre les mains. Et c'est le personnage qui a décidé.
Montrez-moi vos mains. Ouais. Voilà. Je vais vous dire, vous en avez des bien grandes, ma chère Rossi de Palma.
J'ai les mains de mon père. Qu'est-ce que tu te rappelles des mains de mon père?
Pourquoi qu'est-ce qu'elles avaient, les mains de votre père?
Elles avaient aussi un talent naturel. Elles travaillent tout seules, les mains. Si tu les laisses, elles font ce qu'ils veulent.
Voilà. Faisait quoi votre père?
Mon père est maçon. Alors il a fait des choses très très belles, sans connaître Gaudi, il faisait les collages de petits carrés comme ça qui restaient dans ses travaux et les faisait comme ça. Et après il créait des choses intuitivement. Après ma mère, elle a aussi ce côté artiste plus conscient, alors il y a ce côté conscient et l'inconscient de mon père, et là ça fait un bon mix.
Alors vous êtes sa cathédrale à votre père, vous êtes sa basilique.
Oui, je suis plus la basilique, une grande basilique.
Quelle est la plus belle chose qui est née de vos mains, Rossi de Palma, vous qui parlez toujours avec vos mains et vous qui dites j'ai toujours besoin de faire quelque chose de mes mains?
Non, je crois que les travaux manuels, l'artisanat, comme on dit, c'est quelque chose de magnifique, parce que quand tu es en interaction avec quelque chose, soit coudre, broderie, sculpture, quoi que ce soit, même l'écriture en quelque sorte, quand tes mains sont busy, occupées, ta pensée, elle est tranquille. Il y a une sorte de méditation. quand les gens qui travaillent beaucoup avec les mains, ils sont en paix intérieure. Sinon, regarde tous les métiers qui travaillent avec les mains, les artisans, tout. Il y a quelque chose de tranquille parce que les mains, ils font son travail et la pensée et tu deviens plus moins agité. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est vrai. Il faut avoir les mains très occupées. Comme ça, l'esprit, il est tranquille.
Vous travaillez avec vos mains, en fait?
Oui, pas mal, oui. Et après, j'ai fait beaucoup d'artisanat, j'aime bien. Parfois, ça me manque.
Et je voudrais qu'on leur rende hommage ce matin avec vous à toutes ces mains, petites et grandes, douces ou flétries, longues ou rabougries, potelées, faméliques, goûtues, ordinaires. Merci, Rosie de Palma, merci d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que vous êtes la présidente du jury de la Caméra d'Or cette année, c'est-à-dire du prix du premier film ici à Cannes, et qu'on envie toutes celles et ceux qui vont avoir la chance d'être à vos côtés pendant le reste de cette quinzaine. Vous êtes chez vous, vous pouvez revenir quand vous voulez, vous pouvez passer une tête et nous parler de taoïsme.
Mais bien sûr,
moment.
Quand tu veux, Augustin, là, il y a réveillé mon jury, qu'ils sont géniales, et que ça suffit de dormir. Là.
Je pense qu'ils vous ont écouté.
On doit se mettre au travail.
Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instant M, c'est juste après ça. S'appelle Donna Blue et le titre c'est Solitaire. Il est 9h40 sur France Inter et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia L'Instant M, chère Sonia.
Ah, enfin.
Ça c'est Jonathan Cohen.
Merci Augustin d'avoir fini. Enfin. Ah oui, enfin on n'en pouvait plus, Augustin.
Et tu suis avec Rosie de Palma.
Bonjour,
qui vous
Rosie.
Juge.
Non,
Jonathan
ne juge
Cohen.
Pas, je l'adore.
Elle vous juge.
Non, j'ai
elle
adoré tout notre
ce matin.
Entier.
Elle est en train de répondre à ses textos.
Si ça vous ennuie pas, est-ce que je pourrais reprendre mon micro, mon studio
et parler du flambeau
et mon pouvoir.
Et parler du flambeau. Ben, je vous passe le flambeau, ma chère Sonia.
Salut, Augustin.
Au revoir, Augustin.
Et à demain.
Salut.